La sécurité routière, ça a monté là, mais ça a beaucoup baissé ces dernières années. C'est le portefeuille qui fait baisser.
Si on commence à hiérarchiser les mesures, et si la mesure préventive est au-dessus, je me pose la question et je te rejoins, Juliette, sur l'efficacité. Et maintenant, c'est pas la seule, j'imagine.
Merci Anne Bercière en tout cas d'avoir été avec nous dans Estelle Midi. De toute façon, c'est un vaste débat et on en reparlera évidemment très prochainement dans Estelle Midi. On termine avec des messages, je sais qu'ils sont très nombreux et que ça a été difficile à trier, Rémi. Et puis le résultat de notre sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi.
Allez, il y a Franck qui nous dit moi je pense que les consommateurs sont en tout cas leur part de responsabilité. Voilà ce que nous dit Franck. Et que c'est trop facile aussi pour eux de se défausser.
Voilà, et puis on a aussi beaucoup de messages effectivement de gens qui disent je fume un joint et je me sens pas du tout responsable de ce qui s'est passé avec l'attaque du fourgon pénitentiaire. C'est trop facile de nous mettre ça sur le dos. Les consommateurs sont-ils responsables du narcotrafic, Rémi?
Oui, pour 69% de ceux qui sont prononcés sur les réseaux sociaux.
C'est quand même. Ouais.
C'est normal, à titre personnel, moralement, oui. De toute façon, on alimente le trafic, c'est sûr.
Mais c'est quand même une très très large majorité.
RMC, midi 15h, Estelle Midi. Tous les samedis et dimanches, de 6h30 à 9h30, c'est la matinale week-end sur RMC. L'info, le sport, toutes les demi-heures, des invités au plus près de l'actu, mieux manger avec Perico Legas et vous au 32-16. La matinale week-end, c'est demain et dimanche, dès 6h30 sur RMC.
RMC Escrime, du 17 au 19 mai, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal, du 17 au 19 mai, avec RMC.
RMC, pour réagir en direct, 32-16, touche 1. Pas le temps d'écouter la radio aujourd'hui ?
Sur RMC.
Sur RMC. Vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
Je ne sais pas si vous le savez, mais nous sommes à J-72 avant la cérémonie d'ouverture et l'allumage de la vasque olympique. Chaque jour, la flamme traverse des villes différentes, portées par des sportifs. Bon, ça c'est normal, hein, évidemment. Des anonymes sélectionnés en amont, mais surtout des people. On a vu Charles Berling, Big Flo et Oli, Thierry Marx, Olivia Ruiz, Artus, Camille Combal. La liste est très longue, Rémi.
Oui, et comment se fait-il que les porteurs soient issus de milieux aussi divers? Beaucoup se posent la question, parce que les porteurs, ce n'est pas Paris 2024, le comité d'organisation de ces JO en France, qui les choisit tous. Sur un total de 10 000 porteurs, seuls 30% d'entre eux sont choisis par le comité d'organisation des JO. Dans ce cas, il y a des critères précis de sélection qui correspondent aux valeurs du sport. Il y a des athlètes, des personnes qui se sont illustrées dans le sport, mais aussi dans l'encadrement associatif sportif. Pour le reste, tout est possible. 60% des porteurs sont ainsi choisis par des marques, partenaires des relais ou partenaires des JO. En juillet dernier, par exemple, Coca-Cola a lancé un appel à tous les Français qui brillent au sein de leur communauté sportive, artistique ou au sein d'engagements citoyens. Donc déjà, ça élargit beaucoup
les beaux dessins et
le panel. Enfin, les 10% de porteurs restants sont choisis par les collectivités locales. Là encore, sans critères purement sportifs. Ce qui permettra donc de voir porter la flamme par des personnes comme Patrick Bruel, choisi par la région Île-de-France. Il n'y a pas de critères sportifs apparemment. La chef étoilée Anne-Sophie Pic, Eve Gilles, Miss France 2024. Ou encore par Nikki Doll, présentatrice de Drag Queen France, qui a porté la flamme il y a quelques jours.
Alors, des people et des anonymes qui portent la flamme, est-ce choquant? Je vais me tourner vers vous, Pierre Rondeau.
Non, enfin, je suis même étonné qu'on soit choqué de voir des people porter la flamme olympique. Déjà, on peut se poser la question.
Qui n'a aucun rapport avec le sport.
Alors, oui, mais les Jeux Olympiques, ça va au-delà même des valeurs sportives. Mmh. Alors, déjà, juste de façon très factuelle. Entre 10 000 et 11 000 porteurs de la flamme olympique.
10 000 porteurs de la flamme olympique.
Déjà, c'est trop.
Et 1 000 pour la flamme
déjà
olympique.
Déjà, même, on pourrait se poser la question de l'intérêt. De, voilà. Déjà, je mets de côté ce sujet, mais il se pose quand même de l'intérêt de la flamme. Bref. Sur les 10 000 porteurs, le ministère des Sports en France enregistre sur son listing 5 265 sportifs de haut niveau. 5 265. L'ANS, l'Agence nationale du sport, qui finance le sport de haut niveau, l'élitisme sportif, a soutenu pour les Jeux Olympiques et Paralympiques 602 athlètes de haut niveau. Il y a 10 000 porteurs.
Donc, de fait, il y aura la moitié, 50%, qui ne seront pas des sportifs. Ils seront des gens du quotidien, ou des people d'ailleurs, mais en tout cas, qui ne seront pas des sportifs. 5000 sportifs de niveau enregistrés par le ministère, 600 enregistrés par l'ANS. 10 000, tout le reste, des people, des gens du quotidien, peu importe, n'importe qui. Ensuite, deuxième élément sur l'argumentation, les Jeux Olympiques, en tout cas le COJOP, à 97%, c'est financé par des fonds privés. Les sponsors, les partenaires. L'État, c'est 3% sur le COJOP, pas sur la Solidéo. Okay. Donc les partenaires, les marques, la visibilité qu'on porte quand on voit Artus qui porte la Flamme Olympique, qui vient présenter un film, qui a des acteurs qui vont faire le Festival des Cannes et qui ont porté des costumes qui sont mis en avant, c'est la publicité. La marque aussi met en avant ses têtes de gondole parce qu'ils sont partenaires des Jeux. Donc c'est aussi un intérêt pécunier mercantile. C'est soit ça, soit c'est entièrement public, on prend des gens du quotidien, mais c'est l'État qui paye. Moi, ça me dérange pas que des marques sponsorisent les Jeux et les contribuables ne soient pas partie prenante directement du financement des Jeux Olympiques.
Je vais te dire ce qui me gêne. En fait, ce qui me gêne, c'est que le sport est méprisé. Dans notre pays, on méprise le sport. Le sport n'est pas une spécialité au bac.
Ça, je veux dire,
quand vous arrivez, quand vous arrivez à un dîner, vous êtes journaliste sportif, vous êtes un peu. Alors, ça, c'est sûr que vous êtes moins bien vu que journaliste économique ou politique. Quand vous faites du sport, quand vous êtes bon en sport mais pas bon en maths, on vous méprise. On méprise les profs de sport, etc. Mais là, comme par hasard, quand il s'agit de porter la flamme et de faire sa propre pub sur les réseaux sociaux, parce que excusez-moi, les people qui portent la flamme qu'on n'a jamais vu en survêtement et qui sont là à se glorifier parce qu'ils portent la flamme. Tout ça pour faire leur com personnel, bah moi ça me gêne. Ça me gêne terriblement. Et dans ces cas-là, j'ai pas de problème que les mecs, les people, ils fassent leur com personnel, mais qu'au moins, le reste du temps, je veux dire, ils ne crachent pas sur le sport. Le sport, c'est le parent pauvre de l'éducation nationale. Alors que franchement, le sport, c'est énormément de valeur. Et il y a un moment où moi franchement, je ne comprends pas ce choix. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du sport, des bénévoles d'associations sportives, etc. Eux, ils doivent porter la flamme. Bien sûr, ils sont quelques-uns, mais ils devraient être beaucoup plus nombreux. Et peut-être que la flamme, effectivement, 11 000 porteurs de flamme, c'est beaucoup trop. Surtout quand t'es sélectionné par des marques comme Coca-Cola ou je ne sais qui.
Je te dis, j'ai des frissons en t'écoutant. Je bois tes paroles. Je suis à 100 000% d'accord avec toi. La polémique people non people, sur le fait que déjà ce soit pas intégralement des sportifs, c'est expliqué par les chiffres. La moitié, 50% qui l'apporte, people ou journée quotidien, c'est vrai que la question se pose. La question se pose aussi dans le financement. Si c'est des partenaires qui s'occupent de l'organisation, les partenaires imposent leur tête de gondole. Mais au-delà de ça, tout ce qui concerne nation sportive, valorisation du sport à l'école, valorisation du sport du quotidien, je te rejoins à 100 000%. Et on aurait dû, c'est vrai, profiter de l'engouement et profiter de l'événement pour mettre en avant et pour faire de la France une nation sportive. C'est vrai.
Voilà, mais Christophe Dugarry vient de m'envoyer un message, il est d'accord avec moi. Voilà. J'ai envie de m'arrêter là-dessus. Allez-y, Juliette.
Si tu me permets, évidemment, 10 000 porteurs de flammes, c'est totalement ridicule. Je ne savais même pas qu'il y en avait autant, vous me l'apprenez. Mais pour ce qui est de la représentation du sport parmi eux, mais il y a beaucoup plus de choses à faire. Il y a combien d'équipes de foot amateurs, de jeunes qui font du basket, qui font tout. Pourquoi on ne fait pas venir des enfants? Pourquoi on ne fait pas venir des coachs de foot?
Ils sont anonymes en fait. Eux, on ne les met pas en valeur.
Mais il faut qu'eux, ils portent la flamme.
Mais oui, mais Michel Dupont, il doit porter la flamme. Mais Michel Dupont, il ne va pas aller se glorifier sur les réseaux sociaux.
Et quelques people pour le côté sensationnel, etc. D'accord, mais à ce niveau-là, à ce compte-là, on prend des légendes, quoi. J'ai rien contre Camille Combal, mais en quoi Camille Combal a la moindre légitimité?
Parce qu'en fait, c'est la ville de Marseille. C'est la ville de Marseille qui l'a choisi parce qu'il est, il est Marseillais. En fait, t'as les villes aussi qui ont choisi des acteurs, des people de leur communauté. Et puis après, t'as dû avoir aussi quelques copinages quand même. Mais c'est gênant. Mais c'est l'esprit olympique, ça.
Mais l'esprit olympique, ça fait bien longtemps qu'il est galvaudé.
Et ben, c'est bien dommage.
Ils ont essayé de la faire forter.
Je dois dire que quand j'ai vu arriver le sujet ce matin, je me suis dit, oh, pourquoi pas et tout. Puis après, j'ai vu que Charlotte Gainsbourg, elle avait porté la flamme dans Saint-Germain. C'est-à-dire, en plus, c'est Saint-Germain. C'est-à-dire, ça, il faut pour nos auditeurs de province, dont je suis, Saint-Germain, c'est quand même le grand quartier des bobos artistes parisiens.
Mais avec des piscines et des gymnases, c'est quoi ce prix?
S'il te plaît.
Ah, mais il y a du mépris, là.
Attends, laissez-le terminer.
Mais elle est choisie par la ville de Paris, elle.
Je veux dire. Et là, je me suis dit, là, on se fout vraiment notre gueule, quoi. C'est-à-dire que là, c'est... Non, on se fout de votre gueule. Et en plus, on souligne bien au stabilo, hein. Un stabilo un peu comme ton pull, là, qui se voit bien. Et pour dire, regardez. Non, mais Charlotte Gainsbourg, autre truc. Il y a beaucoup de people qui adorent le sport.
Bien sûr.
Notamment le foot. Et cela, je les trouve.
Moi, j'adore le cinéma, mais je ne veux pas les marcher à Cannes.
Mais Patrick Bruel, je n'aime pas Patrick Bruel, je n'aime pas le chanteur.
Je l'adore.
Je n'aime pas l'acteur.
Enfin, pour moi,
c'est le pire. Je trouve mauvais en tout.
N'exagère pas.
Mais il adore le foot.
Bah oui, il adore ça.
C'est un supporter de sport.
Oui, il est au parc, il est au parc tout le temps.
Et donc, moi, je trouve légitime qu'il le porte la flamme parce qu'il aime vraiment ça. Alors, À moins qu'elle veuille me démentir, je ne suis pas sûr que Charles Gainsbourg se soit rendu célèbre pour son amour d'un sport quelconque. Donc, c'est ça, en fait, c'est le côté. Et je pense sincèrement qu'on aurait dû faire uniquement des gens anonymes. Uniquement des gens anonymes.
Pareil. Tu vois, et des sportifs. Non, je suis désolée. Les JO, c'est le sport.
Des sportifs. La semaine dernière, un médaillé olympique français de 1984 a appelé, qui est de Marseille, Joseph Mahmoud, médaille d'argent du premier stipple en anglais, il n'a pas été contacté. C'est-à-dire qu'on n'a quand même pas autant de médailles que ça, notamment dans l'athlétisme où on est vraiment pas très bon. Le type, c'est dans sa ville à Marseille, personne ne l'a contacté. Et on va contacter Charlotte Gainsbourg pour aller se balader dans Paris. Je trouve ça très choquant.
Des sportifs et des anonymes, ça devrait être l'esprit des jeux, ça devrait être ça.
Pourquoi people n'aurait pas le droit de porter la femme olympique?
Mais c'est pas le droit. On te parle de représentativité. Est-ce que nous, comment on aurait trouvé?
Pourquoi ils ne représenteraient pas la France?
L'esprit des jeux, c'était des amateurs sportifs. Des professionnels sportifs.
Non, c'est pas l'esprit des jeux déjà.
Le sport amateur, c'est l'esprit des Jeux Olympiques.
J'ai fait un petit peu d'histoire. Le baron Pierre de Coubertin, lorsqu'il a créé les Jeux Olympiques, il a proscrit le professionnalisme qui n'a été qu'autorisé qu'en 1984. Donc je vais dire l'esprit olympique de Coubertin,
c'est vraiment
l'amateurisme.
Le
sportif professionnel, même dans ce cas de figure-là, il devrait être prescrit si on devait respecter les valeurs olympiques.
Je voudrais juste qu'on prenne Guillaume en ligne qui nous appelle d'Alloge dans les Bouches-du-Rhône. Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous, bonjour Estelle.
Et merci d'être avec nous. Et Guillaume, vous avez porté la flamme, dimanche dernier. À quel titre, Guillaume?
Alors, j'ai été sélectionné par mon entreprise en interne. Et on avait 8 porteurs de flamme au niveau national. Il y a eu une sélection qui a été faite, donc il a fallu que j'explique quelles étaient les valeurs que je partageais avec l'olympisme, avec mon investissement dans les associations et ainsi de suite. Et j'ai été sélectionné en rapport avec ça. Donc, je reste un anonyme. Pour autant, je partage les valeurs populaires, les valeurs olympiques, tout ce qui se réfère à l'olympisme et à la fête que cela va générer en France. Donc, j'ai été honoré et c'est quelque chose qui est important, que cette fête reste populaire aussi.
Mais moi, je comprends, Guillaume, et tant mieux, que vous ayez été ravi de porter cette flamme, et je suis sûre que ça a été un moment extraordinaire pour vous. Après, moi, je m'interroge, non pas sur vous, sur les anonymes, mais effectivement sur des people qui font leur pub autour de cette flamme. Et vous voyez, je me dis aussi que pendant le Covid, on n'a pas arrêté de célébrer les premières lignes, comme on disait. Les médecins, les infirmières, les caissières, les éboueurs. Peut-être que ces gens-là, même s'ils ne font pas de sport, j'aurais préféré les voir eux porter la flamme, parce qu'ils représentent la France, parce qu'ils ont représenté la France à une période qui était compliquée, parce qu'on doit les remercier quelque part et qu'on ne les a jamais remerciés. J'aurais préféré les voir eux porter la flamme plutôt que d'autres qui, excusez-moi, mais quand je les vois parader sur les réseaux sociaux, se servent de l'olympisme pour leur propre intérêt. Et ça me gêne. Et encore une fois, c'est des gens, mais qu'on ne voit jamais parler de sport et qui n'iront jamais dans un stade.
J'ai envie de te dire, c'est comme
sauf pour se faire mousser parce qu'il y a un photographe de gala qui est à côté. Et donc ça fait. Mais c'est comme les tribunes de Roland-Garros. Et vous voyez des gens. Mais qu'on jamais regardé un match de tennis, mais ça me rend folle.
D'accord, mais dans ces cas-là, quid de ces marques de junk food qui s'associent à des compétitions sportives? La boisson gazeuse qui paye des milliards pour sponsoriser.
Mais c'est Coca-Cola. Mais ils payent des sportifs.
Et qui payent des sportifs pour qu'ils portent la flamme.
Mais sans eux, il
n'y
aurait pas les jeux.
Mais est-ce que tu pourrais pas dire, dans ce cas de figure, c'est pareil? Est-ce qu'une boisson sucrée.
Mais sans eux, il n'y aurait pas les jeux.
Justement, et c'est sans eux, il n'y aurait pas les jeux.
Alors que sans les people, il y aurait les jeux quand même.
Mais comme ils ont besoin d'avoir une visibilité, ce qui est. Voilà, c'est le contrat qui est passé avec le CIO. Ils ont besoin de visibilité.
Des
de gondole.
Ça donne de la visibilité aux jeux. Est-ce que les jeux ont besoin de la visibilité people pour avoir de la visibilité?
Si tu as eu 200 000 personnes à Marseille pour l'arrivée de la flamme
olympique, personne ne savait que c'était Jules qui allait allumer la vase.
Mais ils savaient qu'il y avait des concerts, ils savaient qu'il y a des festivités. Tu leur dis, il y a Michel et Paul qui vont porter la flamme olympique, je ne suis pas sûr qu'ils vont se mettre.
Trompe-toi, mon ami. Parce que le Tour de France. Quand tu vas sur le Tour de France,
c'est les champions, c'est les marques qui donnent des.
Attends, on était là pour voir la carbane. Il n'y avait pas de people dans la carbane. plusieurs cas.
Il y avait des produits, il y avait Turner,
c'est tout. Non, je veux dire, on était là et le vélo, il passait comme ça, on reconnaissait personne. Hein. Sur le plat, tu vois rien.
Pas l'Alpe d'Huez.
Mais tu y es pour la fête populaire. Et il y a des centaines de milliers de personnes qui sont tout autour de la, tout au long de la route du Tour de France. Et il n'y a pas de stars, quoi.
Donc, en fait, je pense que vous n'avez pas compris le truc, c'est que ce sont des sponsors, donc ils financent quelque part les Jeux Olympiques et donc derrière exigent une certaine visibilité et elle est visible. C'est un deal qui est, c'est un contrat qui est, c'est dealé à l'avance. Mais c'est effectivement, c'est de la pure logique économique après à ce niveau-là.
Alors, on va remercier.
Si vous préférez sortir votre portefeuille pour les JO, allez-y. Mais moi, je suis d'accord avec,
avec Pierre. On va remercier Guillaume, en tout cas, d'avoir été avec nous. Guillaume qui a été porteur de flamme dimanche dernier. Et on a beaucoup de messages sur ce sujet. J'aimerais savoir si les auditeurs sont d'accord avec moi.
Ce message de Guy qui. Oui, mais la plupart sont d'accord avec toi.
Mais bien sûr.
Ce message de Guy qui nous dit 10 000 porteurs, c'est bien peu par rapport au nombre de méritants dans les sports valides et paralympiques, profs et animateurs. Qui aurait la larme à l'œil d'honneur de participer, qui resterait un exemple pour les jeunes. J'ai travaillé 40 ans comme éducateur sportif, j'ai refusé les médailles, mais la flamme, ça m'aurait bien plu. Voilà, nous dit Guy.
Alors, on a fait un sondage sur le compte Twitter d'Estelle Midi. Est-ce que des people qui portent la flamme, ça vous choque?
C'est partagé, mais ça choque une majorité de ceux qui sont prononcés.
Bien sûr.
Ils sont 54%.
Il y a la marge d'erreur.
Non, c'est pas du tout la marge d'erreur. Parce que moi, 54-46, les gens ont été élus avec moins que ça.
On est à deux doigts du 70.
RMC. Midi 15h,
Estelle Midi.
Tous les matins dès 5h, RMC vous réveille en douceur ou accompagne la fin de votre nuit.
C'est Charles Matin.
De l'économie, du sport, du rire et bien sûr toute l'actualité.
À vos réveils, RMC Charles Matin, du lundi au vendredi, de 5h à 6h30.
Tous les jours dès 6h, Charles Matin est aussi à la télé sur RMC Story, canal 23 de la TNT.
Si un jour vous ne captez pas RMC, pas d'inquiétude.
RMC est aussi en direct sur rmc.fr et sur l'appli RMC.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeplechase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeplechase de Paris, ce week-end avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
RMC au 32-16,
45 centimes la minute.
Ou par SMS au 732-16,
75 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC présente la 15e édition des trophées PME RMC.
Le premier concours des PME de France.
Vous dirigez une PME? Inscrivez-la dès maintenant sur trophées-pme-rmc.com.
Gagnez 100 000 euros d'espace publicitaire sur RMC. Les trophées PME RMC.
Ensemble, bougeons-nous. Trop pressé aujourd'hui?
Sur RMC, vous avez toute la nuit.
Rediff. RMC, Estelle Midi.
On n'arrête pas le progrès.
Et Melinda, on va parler photos créées par l'IA. La semaine dernière, il y avait le Met Gala à New York. On y a vu plein de stars, de Shakira à Zendaya ou même Aya Nakamura. Mais Melinda, on a également vu des photos de stars qui n'y étaient pas du tout. Ça, c'est l'intelligence artificielle. Comment c'est possible?
Eh bien alors ça, c'est vraiment le miracle 2024. Désormais, vous pouvez être un endroit même si vous n'y étiez pas et n'étiez pas invité. Ça, c'est quand même génial. Ou dans la tenue que vous n'aviez pas.
D'accord.
Parce que ça, c'est vraiment la leçon du Met Gala. Sur le tapis rouge, on a croisé donc l'IA. Vous avez sans doute vu cette magnifique tenue de Katy Perry dans une robe, mais alors elle blanche, très très grande, avec des fleurs partout. Et celle-là aussi, parce que c'est quand même une star, donc elle avait le droit à deux tenues sur le tapis. Mmh. Le seul problème, c'est qu'elle n'était absolument pas là. Et le mieux encore, c'est que sa mère lui a envoyé un texto pour la féliciter pour sa tenue. Bah si. C'est et donc, énorme. Katy Perry, elle a reçu ça, je pense qu'elle en a un peu rigolé, mais pas trop. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a publié sur Instagram les fameuses photos, le message de sa mère, et surtout une vidéo d'elle en studio en train d'enregistrer pour dire, en fait, j'ai un petit problème, je n'étais pas là. Il y avait aussi Lady Gaga dans une robe complètement burlesque.
Ouais, comme d'hab, quoi.
Ouais, voilà, comme d'hab. Très, très blanche. Voilà. Pour ceux qui regardent les images, on la voit. C'est complètement n'importe quoi. On se demande même comment c'est portable.
Un escalier.
Il y a la même avec des pots de fleurs partout. Pareil, photo à l'IA. Lady Gaga n'était pas là.
C'est artistique. Hein,
c'est hyper artistique.
Enfin, c'est quand même gênant. Donc, les photos d'eau dans un endroit où vous n'étiez pas. Comment on peut savoir, finalement, Melinda, si les photos sont vraies ou sont fausses?
Alors, il y a un petit problème, c'est que, à part si, comme Katy Perry, vous dites, en fait, j'y étais pas, les deepfakes, parce que ça s'apparente à des deepfakes, donc le fait de faire croire quelque chose en ayant monté,
Eh ben, on peut pas le savoir. Aujourd'hui, c'est tellement pointu. Il y a des logiciels comme DALL-E, comme Midjourney, donc on entend tout le temps parler, qui peuvent vraiment faire ça comme si c'était réaliste. J'ai quand même quelques petites astuces pour vous. D'accord. Quand vous regardez une photo, en fait, regardez l'arrière-plan. Parce qu'en général, c'est l'arrière-plan qui trahit parce que l'IA, elle est bien, mais elle s'occupe du sujet principal. À l'arrière, vous allez voir des gens qui ont un visage un peu bizarre, parfois un peu déformé, si vous regardez bien dans le détail, des vêtements qui tombent pas bien et souvent des bras qui se baladent. C'est la fameuse photo de Kate Middleton, la photo de famille qui avait été retouchée, vous savez, la photo.
Tout à fait.
Et qui était, on l'a, en fait, elle a été trahie par tous les autres éléments, pas par elle, par tout ce qu'il y avait autour. Ça, c'est la première chose. Parce que le coup des six doigts, ça y est, on est passé à autre chose maintenant.
Les mains, c'est fini, il n'y a plus
rien. C'est fini, les six doigts, tout le monde a cinq doigts. Les yeux, regardez les yeux aussi. Si c'est une vidéo, vous regardez parce qu'en général, c'est le regard qui trahit. Le regard n'arrive pas encore à suivre exactement ce qui se passe. Vous regardez les ombres aussi. Les ombres trahissent. Si c'est une photo qui est censée être prise à 17h et que derrière, le soleil, il est comme à midi, mais il faut faire attention
alors
à ça.
Ouais, faut quand même être.
Faut
avoir du temps.
Oui, il faut avoir du temps. Par exemple, pour le Met Gala, ce qui a trahi, eh bien, c'était la couleur du tapis. Parce que sur les photos qui ont été faites, c'était pas vraiment le bon tapis. Mais ça, il faut le savoir pareil. Mais si vous le savez, vous dites là, il y a un problème. Pourquoi il était vert, il est rouge? Des petits trucs comme ça. Évidemment, il y a la source de la photo. Si c'est une vidéo, une photo AFP, bon, a priori, c'est bon. Si c'est la photo de Tartempion sur les réseaux,
c'est moins bien.
Faut faire attention. Il y a des outils aussi aujourd'hui qui permettent en ligne de vérifier si vous avez un doute sur une photo, vous la mettez. Alors il y en a un notamment qui s'appelle Forensically. Vous la mettez, il va vous dire non, c'est une photo à l'IA. Parce que théoriquement, toute photo retouchée Photoshop ou IA doit être spécifiée. Vous devez le savoir, ça doit être marqué. Il y a un consortium international avec Facebook, Meta, Samsung, Google, tout ça, qui s'est mis d'accord et qui a pris des engagements auprès de la Maison Blanche pour dire on va mettre un filigrane,
L'image,
on va mettre une motion, une empreinte. Alors il y a des petits malins, c'est juste dans les métadonnées. Là c'est pareil, il faut aller chercher. Mais normalement, vous devez savoir comme sur les couvertures de magazines.
Enfin, c'est pas très réjouissant ça, si en fait on peut publier n'importe quelle photo qui
a l'air vraie. Mais si vous auriez pu être au Met Gala.
Ben oui, mais non,
je vais porter la flamme olympique.
Mais
très vite, on va avoir ce réflexe. On va être obligé d'aller systématiquement. Il y aura des applis de vérification et puis on va pouvoir vérifier.
Mais il y a des IA qui peuvent détecter si une IA a corrigé une photo.
Et puis il y a une IA qui va pouvoir détecter si une IA a décidé de corriger une photo.
C'est très
rassurant. L'IA, enfin vraiment, on ne s'en sort plus. Merci beaucoup, Mélinda Davant Soulaz.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi.
Bonjour, c'est Apolline.
RMC, Apolline Matin.
Vous voulez une matinale où on vous parle de vos préoccupations, où on vous parle de pouvoir d'achat, de sécurité, d'économie? Vous voulez qu'on vous accompagne, vous voulez qu'on vous écoute, vous voulez des réponses sans concession à toutes les questions que vous vous posez, et puis vous voulez vous marrer? Ne cherchez plus. On est là avec toute l'équipe, avec Charles, avec Manu, avec Nicolas, avec Amélie, avec Arnaud, et avec vous au 32-16. Alors à tout à l'heure, 6h30, 9h pour Apolline Matin.
RMC Escrime. Du 17 au 19 mai, c'est le Challenge Monal. La Coupe du Monde d'épée hommes accueille les stars mondiales de l'escrime à Saint-Maur-des-Fossés. Encouragez le champion olympique Romain Canon et ses partenaires de l'équipe de France pour la dernière épreuve sélective avant les Jeux Olympiques. Info et résa sur ffescrime.fr. Le Challenge Monal. Du 17 au 19 mai avec RMC. Tout RMC en podcast.
Sur l'appli RMC. Sur RMC, la nuit. RMC. C'est le meilleur de la journée. Rediff.
RMC, midi 15h. Estelle Midi.
Estelle Denis.
L'application du jour, et c'est celle des voisins vigilants qui inaugure une nouvelle formule. Alors qu'auparavant, on ne pouvait signaler que des incivilités au sein de son propre quartier. Et bien désormais, tout le monde pourra indiquer un mauvais comportement, où qu'il soit en France. Écoutez.
Voisins vigilants et solidaires entrent dans une nouvelle ère. Dans un monde en perpétuel mouvement, un monde de progrès constant, Voisins vigilants et solidaires vous offre une application plus intuitive pour qu'ensemble nous soyons en sécurité, pour s'alerter et être alerté. Vous aussi, rejoignez votre communauté pour la sécurité de tous. Téléchargez l'application et restez connecté avec vos voisins.
Je vois Pierre Rondeau qui est en PLS après cette publicité de voisin vigilant. Voilà, voisin vigilant qui donc permet aujourd'hui de signaler n'importe quel incident, Rémi, en dehors de son quartier. Mais c'est-à-dire que moi, si je vois quelqu'un jeter un papier, je peux le signaler sur voisin vigilant.
Absolument. Absolument, oui. Si tu as téléchargé l'application, c'est tout à fait possible. Ou alors, par exemple, si tu es dans ton quartier, tu vois la lumière allumé chez ton voisin alors que tu sais très bien qu'il est parti en vacances, tu peux le signaler. Tu peux également signaler un véhicule qui semble tourner anormalement dans ton quartier. En fait, Waze dont tu parles là, c'est une nouvelle fonctionnalité de cette application Voisin Vigilant et Solidaire, application téléchargeable sur votre smartphone et qui vous permet donc notamment d'alerter la mairie et les forces de l'ordre si vous constatez quelque chose d'anormal. Vous connaissez peut-être le logo, il a la même couleur que ton pull, jaune.
Tout le monde me dit ça depuis tout à l'heure. J'ai pas
avec
fait exprès.
Un œil noir en fond. C'est un réseau de voisins géré par une entreprise privée qui a été créée en 2002 et qui regroupe aujourd'hui, selon elle, en tout cas c'est ce qu'affirme son site, 4 millions de Français. 1000 communes sont également partenaires du dispositif et mettent gratuitement à disposition de leurs administrés cette application. Pour cela, ces communes, en revanche, elles paient à l'entreprise un nombre de SMS prédéfinis qui seront envoyés via le réseau social. Ah bah oui, c'est payant, c'est une entreprise privée. Tu crois qu'elle comment ?
Ouais, mais du quartier.
Voisin Vigilant et Solidaire propose également aux particuliers ou aux mairies d'acheter une signalétique supposée dissuasive, des panneaux, donc vous pouvez voir à l'entrée de la commune.
Ah oui, des fois il y a ça,
bah oui.
Commune Voisin Vigilant.
Bah, voilà. La couleur de ton pull, donc
j'ai pas mis pour ça,
avec un œil noir sur le fond, une signalétique donc supposée dissuasive. Il y a également des autocollants qu'on peut apposer sur son domicile ou sur son sa boîte à lettres, par exemple. C'est 5 euros hein, quand même l'autocollant. Donc ils sont censés informer les passants qu'ils ou elles se promènent dans un espace vigilant.
Alors, est-ce que cette application Voisin Vigilant qui permet de signaler des incivilités même loin de chez soi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée ? Je me tourne vers vous, Pierre, j'ai envie de rire parce que je vois votre tête depuis tout à l'heure.
Non, mais c'est hallucinant. Après, on pourrait se poser la question de la demande qui existe avec ce genre d'application.
Il y a une demande, ça c'est
mais justement,
sûr.
Donc cette demande-là émane bien d'une problématique.
Un cambriolage toutes les 3 minutes aujourd'hui.
C'est bien
en
le problème. C'est le problème au-delà de la bizarrerie de la chose, parce que bien évidemment, on en rigole, mais de pouvoir signaler une lumière allumée, signaler un mouvement comme ça suspicieux, je trouve ça, mais dans une forme de délation automatique qui moi me répugne totalement. Mais les choses étant dites, si ça existe et s'il y a une demande, c'est que bien en amont, il y a une problématique, non pas d'insécurité, mais une problématique effectivement de confiance vis-à-vis d'autrui, au sein de sa communauté, une problématique d'explosion des cambriolages, et il y a bien une explication à cette explosion de cambriolages, à cette augmentation de cambriolages, et qu'on en vienne, pour lutter contre ces problématiques sociales qui existent, à systématiser, à automatiser, à normaliser la délation. Moi, je trouve ça, mais déprimant, c'est déprimant. Je vais prendre mon application, je vais prendre mon téléphone et dès lors, je vais regarder par la vitre, je vais tirer mes rideaux, je vais regarder mes voisins, je vais être suspicieux en permanence, je vais constater que la lumière n'est pas.
C'est déjà ce que beaucoup font sans avoir l'application Voisin Vigilant. Hein.
Je trouve ça m'horripile. Je trouve
ça. Ça se trouve ton voisin fait ça. Hein.
Mais je trouve ça navrant. Vraiment, moi, je préférais ne pas passer par l'application et faire confiance directement à autrui. J'aimerais que les gens se, il y a un retour à la confiance.
Il n'y a jamais autant d'incivilité, donc t'as raison.
C'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis, c'est que l'application en soi me gêne, mais elle existe parce qu'il y a une problématique qui est globale, qui est qu'il n'y a plus de confiance. Il y a une méfiance totale et absolue. Et les causes, les origines, les conséquences.
Mais est-ce que c'est pas un comportement citoyen?
La délation, c'est un comportement citoyen.
C'est pas la délation.
La délation. Évidemment que c'est de la délation.
Excuse-moi, si tu vois un mec qui est en train de fracasser une vitrine, c'est quoi? C'est de la délation si tu dis qu'il est en train de faire quelque chose d'illégal?
Alors, on d'accord qu'il y a une distinction.
Bah, pas si j'ai un papier, bien sûr.
Il y a une distinction entre lumière allumée, voiture qui passe, et effectivement un cambrioleur. Et le cambrioleur, tu appelles les flics. On va aller dans une espèce de société américaine où on voit un gars dans la rue qui cambriole.
Je
prends une batte de baseball. Ben, ça vient de là-bas. On est Fred. Toi qui t'insurges contre l'américanisation de la société, on est en plein dedans.
Alors, laissons Fred réagir. Puis après, j'ai gardé Juliette pour la fin.
Je vois pas en quoi Pierre s'offusque.
Ah, bah si, moi je vois quand même.
C'est-à-dire que moi, mes voisins, je sais pertinemment qu'ils sont en vacances. J'entends du bruit, je vois de la lumière. Je sais très bien qu'ils sont pas là. Bah, automatiquement, je vais alerter.
Parce que c'est normal.
Et d'ailleurs, justement, je termine. Mais t'arrêtes pas depuis le temps.
Mais ça, c'est vrai que t'arrêtes pas. Bon, vas-y.
Et automatiquement, mais c'est mon rôle de citoyen. Je dirais même que c'est mon devoir de citoyen. Et j'espère que mon voisin ferait la même chose pour moi. C'est simplement un outil supplémentaire.
Mais sinon, tu peux pas l'appeler plutôt que de mettre ça sur une appli?
Mais si ça, c'est plus facile. Parce que tu sais pas si tu vas l'avoir, etc. Donc moi je trouve que c'est un outil de plus. Bien sûr que tu peux l'appeler, mais c'est un outil de plus pour quelque chose qui se fait naturellement. Je sais que dans mon immeuble, on est très vigilant par rapport à ce qu'il y a, aux gens qui peuvent entrer, etc. Et je trouve ça très
dans
bien.
Dans ton immeuble. Mais si par exemple, en fait, le problème c'est que Voisin Vigilant ça existe. Imagine, d'accord, tu traverses un petit village, je dis n'importe quoi, et tu vois un mec un petit, qui a un comportement qui te semble suspect. Là, ça veut dire... Mais non, mais c'est ça, en fait. Ça veut dire que tu pourras signaler tout comportement suspect, même dans un lieu qui n'est pas chez toi. Que tu le fasses dans ton immeuble, parce que tu vois un livreur qui est un peu chelou, c'est-à-dire qu'il frappe à plusieurs portes et tout. Là, pas de problème, c'est, ça paraît normal. On a tous un compte WhatsApp de l'immeuble ou, de, voilà, ou du patelin. Pas de problème. Mais là, tu pourras signaler des comportements comme Waze. Waze, en fait, tu signales des embouteillages, même quand c'est loin de chez toi. Mais moi, par exemple, des fois, je signale sur Waze des embouteillages, mais c'est pour avoir des points. Tu vois, donc là, ça veut dire quoi? On va signaler des comportements bizarres pour avoir plus de points sur voisin vigilant. Et à la fin, tu auras un autocollant gratuit. Toi,
mais non. Bah,
hein, non mais peut-être, mais
c'est
peut-être une bonne idée.
Non mais tu vois quelqu'un, tu t'arrêtes à la station service, tu vois quelqu'un qui va se faire braquer ou je sais pas quoi.
Ouais, bah j'appelle la police. Bah, en fait, j'appelle pas son voisin vigilant.
Mais moi, je ne vois ça que comme un outil pour un comportement qui existe déjà naturellement chez beaucoup de gens.
Oui, mais moi je vois pas l'intérêt, en fait, si tu veux, de mettre l'appli dans d'autres endroits que chez toi.
Si, parce que c'est pas parce que tu peux voir des choses délictuelles en dehors de chez toi.
T'appelles la police, en fait.
Oui, mais enfin des fois ça, c'est si ce système-là permet d'aller plus vite.
Pour que les gens se fassent justice eux-mêmes, par exemple.
Mais non, mais c'est prévenir.
Mais pour les prévenir, si par exemple tu vois, je vois quelqu'un.
Par exemple, t'es dans le métro. Regarde, t'es dans le métro.
D'accord.
T'es dans le métro.
Ouais, je vois quelqu'un qui a un flingue. Je vais pas le mettre sur voisin vigilant. Je vais aller voir un agent.
Alors ça vous arrive souvent. Attention, des pickpockets, ça m'emmène dans le métro. Oui. C'est le chauffeur du métro. Enfin, le conducteur du.
Oui. J'ai pas besoin de voisin vigilant pour garder mon sac près de moi.
Ben c'est exactement la même chose. C'est quelqu'un qui là, c'est le conducteur qui alerte. Là, on va t'alerter que sur la ligne, sur cette ligne-là, en ce moment, il y a des pickpockets.
Il y a des pickpockets sur toutes les lignes à tout moment. Une fois que tu le sais, tu gardes ton sac.
C'est très bien qu'à un moment, tu as cette alerte. C'est exactement la même chose. Bon. Tu alertes des gens.
Parce que ça émane du conducteur, pas des citoyens directement.
Mais oui, mais enfin, le conducteur a pu ne pas voir quelque chose.
Je suis sûre que vous êtes un voisin vigilant, vous.
Non, mais moi, je trouve ça parfaitement malsain, en fait. C'est l'application.
Ça l'était de vous, là.
De l'ubérisation.
La droite n'est plus qu'elle était.
Pardon, par contre, je vais. Parce que vous avez beaucoup parlé, donc je vais parler. Donc, ubérisation de la délation, c'est parfaitement malsain. Heureusement qu'on n'avait pas d'application en 39-45, sinon ça aurait été un festival. Avoir ajouté les incivilités, alors qu'est-ce que ça veut dire, le moindre bout de papier par terre, parce que j'imagine qu'en plus ça s'accompagne de photos, donc on va prendre la photo de l'incivilité, et en fait s'il y a des incivilités, s'il y a de la lumière chez quelqu'un qui est en vacances, je vois pas en quoi le citoyen a besoin d'être au courant. En fait, il y a que la police qui a besoin d'être au courant. Donc vous appelez la police, tout ce que ça va faire, c'est créer d'énormes dérives où tout le monde va se prendre en photo, tout le monde, puis lui il est en train de tomber sa pelouse un jour où il a pas le droit, donc je vais le prendre en photo, je vais le mettre sur Waze, par en vigilance. C'est absolument malsain. Et je pense que ça va très bien marcher, en plus. C'est qu'en plus, la délation en France, les gens adorent. Donc je pense que ça va très bien marcher. Pendant le Covid, ça aurait fait un carton plein, quoi. Celui qui va vider sa poubelle un peu trop longtemps, on va aussi le mettre sur voisin vigilant. C'est vraiment une mauvaise idée.
Celui qui allait courir bien trop loin de chez lui, alors que toi, t'es cloîtré dans ton appartement.
Excusez-moi, ça ne sert à rien
du tout.
Ça ne sert à rien.
Ça dissuade un peu. Quand tu vois une commune voisin vigilant et que t'as envie de faire un braquage,
vis dans un état de surveillance où tous vos voisins vous surveillent, c'est sûr que ça dissuade.
Moi, je vais être sûr que les cambrioleurs...
C'est comme une fleurie. Bon, bah, tu dis, tiens, je vais aller.
Il se dit, attends, commune vigilante, je vais pas y aller. Je sais pas.
Non, mais tu te dis, je risque quand même d'avoir le vieux derrière sa fenêtre, là, qui est en train de regarder ce que je fais. Moi, en vrai, ça me ferait un peu. Enfin, si j'aimerais pas avoir à côté de moi un voisin avec marqué voisin vigilant.
C'est vrai. Alors, évidemment, pour vivre dans une ville, pas le cambrioleur, mais vivre dans une ville vigilante, savoir que ton voisin il va t'épier et va te regarder, je pourrais pas.
T'épies déjà ton voisin.
Oui, mais là, il peut le faire sur une application.
Mais oui, ça
peut aller le dire.
Ça pousse les gens à la délation. C'est vraiment de l'ubérisation. Il y a des gens qui vont faire que ça.
Alors, tu penses bien. Alors, justement.
Il y avait un Pierre Rondeau qui rentre à 23h. D'habitude, il rentre à 22h30. C'est pas normal.
Mais pourquoi pas?
Mais si, attendez. Pourquoi pas? Il y a des gens, ils adorent les meilleurs de service.
On va prendre tout de suite. Justement, quelqu'un qui est très concerné par cette application Voisin Vigilant. Il s'appelle Jérôme Viaud, il est maire de Pernes-les-Fontaines. Et justement, sa ville est affiliée à Voisin Vigilant. Bonjour monsieur le maire.
Bonjour Estelle, donc je...
Maire adjoint, pardon.
Voilà, je suis...
Mais vous serez élu à la prochaine.
De Pernes. Oh non, je ne sais pas, je laisse ça au maire actuel, là, il est bien plus compétent que moi. Voilà. Donc effectivement, nous avons adhéré à ce dispositif il y a déjà quelques années, donc au début du mandat actuel, donc en 2020. Et c'est vrai que nous avons des résultats qui sont extraordinaires, je dirais. Parce que nous avons, cette application nous a permis d'interpeller en l'espace de 2 mois 4 individus qui étaient en train de cambrioler, donc 2 fois 2 individus qui étaient en train de cambrioler chez des gens, grâce à l'alerte de voisins vigilants. Donc, pour revenir un petit peu au fondement.
Et pourquoi ces gens n'ont pas appelé la police?
Alors non, mais justement, il faut un petit peu comprendre le fonctionnement de l'application et le pourquoi du comment. Moi, cette application, j'ai souhaité la mettre en place pour avoir une surveillance bienveillante, comme j'appelle ça.
D'accord.
Je veux pas que ce soit justement de la délation, etc. Moi, je souhaite que le propriétaire d'une maison ou n'importe qui puisse alerter son voisinage s'il constate un comportement suspect autour de chez lui. Donc un véhicule qui rôderait, quelqu'un qui n'a pas l'habitude de voir, quelqu'un qui regarderait par-dessus les clôtures, etc. Mm-hmm. Et ça permet d'attirer l'attention des voisins sur cet événement-là. Mais en même temps, moi, ce que je souhaite, c'est, et ce que je demande aux personnes, c'est qu'ils couplent cette alerte avec un appel à la police. Et s'ils ne le font pas, moi, je demande à mes agents de la police municipale d'appeler immédiatement la personne pour en savoir un petit peu plus et justement pour orienter la patrouille s'il y a besoin.
Mais voilà, vous n'avez jamais des signalements un peu border, vous voyez ce que je veux dire?
Alors, voilà.
Est-ce que ce n'est pas la porte ouverte aussi au racisme, quelque part?
La difficulté, c'est que nous avons, nous, un contrôle a posteriori des annonces qui sont effectuées.
Ouais.
Et on en modère quand même pas mal, parce qu'il y a le système qui est quand même bien fait sur Voisin Vigilant qui permet de modérer les alertes.
Mm-hmm.
Par exemple, nous, c'est vrai qu'on a connu une dérive un petit peu qu'il a fallu recadrer.
Voilà.
Il y en a une qui est mal garée sur un trottoir, il y en a une qui laisse son chien divaguer, etc. Donc ça, en fait, ça a été modéré. C'est-à-dire que même pas les gens ne les reçoivent.
D'accord.
Autour de chez vous. Ça a été modéré par le serveur parce que nous l'avons souhaité. De ce fait, le message n'est pas envoyé. Et à ce moment-là, d'accord, nous envoyons un rappel à la personne qui pour lui dire comment doit être utilisée l'application Voisin Vigilant, okay, définitive. Mais c'est vrai que ça a vraiment très bien marché et nous avons des super résultats, nous, sur notre commune de Pernes-les-Fontaines, grâce à cette application. Nous avons plus de 1000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme.
Okay.
Et on souhaite vraiment développer encore cette application chez nous.
Eh ben merci beaucoup, Jérôme, en tout cas, d'avoir été avec nous. Est-ce que la tonalité des messages sur la PRMC est la même, Rémi?
Mi nous écrit: voisin vigilant Pierre est toujours le gauchiste de service. Ce n'est pas de la délation. Bon, il pourrait s'adresser à Juliette également.
D'accord avec lui, ouais.
Vous n'avez pas de personne peut-être âgée dans votre famille. Ça renforce les liens de voisinage aussi. Ils partent tous sans savoir, mais c'est l'habitude. Parfois avec certains propos. Voilà ce que nous dit Mi, qui considère qu'il y a aussi un aspect solidarité. D'ailleurs, c'est voisin vigilant et solidaire.
Mais on se rend bien compte qu'il y a deux parties à cette application. La partie « je me suis fait cambrioler, attention tout le monde », c'est tout à fait logique. Après, moi, ce qui me dérange, c'est la partie incivilité, encore une fois, avec la 36-15 conciergerie. Je vais faire un rapport sur le comportement de mes voisins. Oui, c'est ça qui me dérange.
C'est modéré. Je voudrais qu'on ait le témoignage tout de suite de Thierry, qui nous appelle de Birieux, dans l'Ain, et qui est retraité. Bonjour Thierry.
Bonjour Estelle, bonjour à toutes.
Bonjour Thierry. Thierry, vous avez été victime de voisins vigilants, vous?
Oui.
Bah, allez-y.
Pendant le Covid, je faisais un tour des lots et c'est vrai que j'étais un peu hors la loi.
Voilà.
Et je suis dans un petit village où on ne voit jamais les gendarmes, on ne voit jamais rien. Et un seul coup, les gendarmes sont arrivés et j'ai appris par la suite que c'était des voisins qui m'avaient dénoncé. Parce que je n'avais pas le droit de faire du vélo.
Ah oui, alors c'est pas voisin vigilant, mais peut-être. Mais
vous avez eu l'appli.
Effectivement, vous avez quand même été dénoncé par votre voisin. Vous avez payé une amende?
Ah oui, j'ai été verbalisé sur 35 euros.
Ah ouais. Ah non, je vous dis, on peut pas faire confiance à l'humain.
Après, ça te choque pas.
Mais c'est pas à cause de l'appli.
Mais non, mais tu vois bien que l'appli, elle va aider.
Mais non, justement, l'appli modère.
Pas pendant le Covid, mais c'est vrai que... Non, mais c'est le genre... Fred, il faut dire ce qui est. C'est le genre de dérive auquel on peut assister.
Mais il n'y a pas besoin de cette appli pour qu'il y ait ce genre de dérive. Il y a des gens qui appellent les flics pour n'importe quoi.
Elle facilite ce genre de dérive.
Non,
on
ne
peut pas dire le contraire.
Non, justement. Puisque les gens, au lieu d'appeler les flics, passent par l'application. On a vu l'exemple bien expliqué par Jérôme.
Thierry, est-ce que vous avez su quel voisin vous avez dénoncé?
Oui, parce que en parlant avec des voisins proches qui avaient eu des problèmes avec, par rapport à une déchetterie, parce que il allait jeter ses bouteilles dans la déchetterie, la femme est sortie pour lui dire qu'il était hors la loi, qu'il n'avait pas le droit de sortir.
Ah oui.
Donc c'est vrai qu'on a su qui avait pu me dénoncer.
Ah oui, d'accord. Vous êtes allé lui dire un petit mot ou pas du tout?
J'ai tenté, mais je me suis dit que ça risquerait de se retourner contre moi, mais voilà.
Ouais, vous avez raison. Derrière.
Vigilance, c'est voisin chiant. On en a tous.
Merci beaucoup, Thierry, en tout cas, d'avoir été avec nous. Et on est aujourd'hui avec le directeur général adjoint de Voisins Vigilants et Solidaires. C'est notre invité aujourd'hui, c'est Frédéric de La Nouvelle. Bonjour, Frédéric.
Bonjour à tous.
Et merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous voyez, Frédéric, alors, il y a vraiment des grands adeptes de votre appli.
Ah,
et d'autres qui s'inquiètent. En fait, Frédéric, ça apporte quoi le fait de pouvoir aujourd'hui dénoncer des voisins partout en France ?
D'abord, dénoncer le voisin, c'est pas le bon terme. Je ne sais pas pourquoi vous dites ça. Vous parlez depuis 10 minutes de délation, de dénonciation et de 39-45. J'ai entendu la référence Seconde Guerre mondiale par Juliette. Donc c'est pas du tout l'idée, si vous voulez. L'objectif, d'abord, ça ne concerne pas que votre quartier. Aujourd'hui, l'application est dans la France entière.
C'est ça.
Donc, si vous habitez Brest, mais que vous êtes en déplacement à Aix-en-Provence, quand vous allez vous connecter à l'application, vous serez géolocalisé là où vous vous trouvez dans Aix-en-Provence.
D'accord.
C'est une application qui va, d'une part, vous permettre d'être informé en temps réel s'il se passe un événement lié à votre sécurité, par exemple autour de vous, qui va vous permettre d'alerter, en effet, s'il se passe quelque chose, qui va vous permettre d'alerter la communauté qui se situe au même endroit. Et parallèlement, cette application, où vous vous trouviez, vous permet d'être toujours au courant s'il se passe des choses dans votre quartier. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. On n'a pas besoin de voisins vigilants pour dénoncer son voisin. Il existe déjà des dizaines de canaux de communication possibles.
Oui. On peut appeler les autorités. Des groupes Facebook.
Quoi. On nous parle souvent de milices. On nous dit, mais alors, est-ce que ça risque pas d'encourager les milices? Alors, pareil, il n'y a pas besoin de voisins vigilants et solidaires pour créer des milices. Hein, il suffit d'un groupe WhatsApp, d'un groupe Facebook, comme vous dites. Et puis, deux, c'est même l'inverse qu'on recherche. Parce que quand un maire, comme celui dont nous avons entendu le témoignage il y a quelques minutes, adopte ce dispositif, c'est un maire qui est informé de tout ce qui se passe dans sa commune. C'est une remontée d'information qui se veut utile, très utile. Donc c'est un outil qui vient compléter le dispositif et qui vient aider la police municipale lorsque la commune en dispose, par exemple.
Mais Frédéric, on peut. C'est quoi le premier truc qu'on peut signaler? C'est-à-dire que est-ce que je peux signaler que quelqu'un jette un papier par terre, ou est-ce que quand même il faut que ce soit un petit peu plus circonstancié?
Bon, vous pouvez signaler tout et n'importe quoi, mais ce qui ne conviendra pas sera immédiatement éliminé. C'est-à-dire que vous avez la possibilité, vous allez choisir une icône.
Ouais.
Vous allez choisir l'icône cambriolage, vol, dégradation, agression. Vous avez aussi une icône météo dangereuse, solidarité, écologie, parce qu'on ne parle pas que de sécurité. Mais si vous voulez une décharge sauvage à côté de chez vous, par exemple, vous allez pouvoir la signaler. Et puis, vous allez taper un petit texte court pour dire ce qui se passe. C'est sûr que si vous écrivez un commentaire raciste, homophobe, antisémite, eh bien, on a un service de modération, nous, qui va intervenir très rapidement. D'abord, ce commentaire peut être signalé par les autres utilisateurs.
Okay.
Et ensuite, on a ce service de modération qui supprime le commentaire en quelques minutes.
Mais c'est seulement du texte. Il n'y a pas une photo qui est prise.
Alors, il n'y a pas de photo. On est sur une configuration qui est la même que les réseaux sociaux, par exemple. Donc, à nous d'être à la hauteur, parce que personnellement, je considère que certains réseaux sociaux ne sont pas à la hauteur dans leur modération. À nous, voisins vigilants, d'être à la hauteur aussi dans la modération. Je crois qu'on l'a vraiment testé beaucoup, et on a eu plusieurs cas dernièrement, que ça fonctionne très très bien. Voilà. Donc l'idée, si vous voulez, c'est d'une part de permettre aux citoyens d'être informés de ce qui se passe autour de là où il se trouve ou dans son quartier, de lui permettre également d'informer les autres, c'est communautaire, et puis pour les mairies qui adoptent le dispositif,
D'être informé de tout ce qui se passe.
D'être informé, ça crée un canal de communication entre l'élu et les administrés sur la sécurité, la solidarité. Si vous voulez, nous, on est sur un positionnement, veillons les uns sur les autres. C'est ça l'idée.
D'accord.
Alors, vous avez raison, il y aura toujours des gens pour...
Il y aura des dérives, mais c'est pas l'idée, quoi.
Il y aura toujours des gens pour écrire des choses qu'il ne faut pas écrire. Mais ce sera supprimé très rapidement. Et quand on télécharge l'application Voisins Vigilants Solidaires, on s'installe pas pour autant dans sa fenêtre.
Si le nom de la personne est mentionné dans le message, est-ce supprimer, que vous modérez?
Supprimer. Si vous mettez une plaque d'immatriculation de voiture, supprimer.
Voilà.
C'est signalé, c'est supprimé.
D'accord,
voilà. Vous nous rassurez.
Mais là où vous avez raison, c'est que c'est vrai que c'est un des gros enjeux de ce type d'application. Il y a de la donnée personnelle, voilà, il y a un travail qui est mené avec la CNIL, tout ça et un certain nombre de juristes, parce qu'il faut être absolument réglo là-dessus. Et c'est une application qui est là pour compléter le renforcer en tout cas les dispositifs de sécurité de proximité. Et aujourd'hui, si un groupe d'individus est violent dans la rue, insulte, je sais pas moi, des jeunes femmes, eh bien évidemment ça remplace pas le 17 ou 18, il faut appeler d'abord le 17 ou 18, mais c'est important de prévenir la communauté. Alors, qu'il y a potentiellement un danger dans cette rue.
Alors, Fred de la Nouvelle, restez avec nous. On a Sandrine en ligne qui nous appelle de Seine-et-Marne. Et Sandrine, elle a été voisine vigilante. Bonjour Sandrine.
Oui, bonjour.
Alors Sandrine, ça se passait comment? Vous aviez toujours un œil sur les voisins?
Alors non, pas du tout. Moi, je suis plutôt quelqu'un justement d'attentive et de prévenante. Oui. Et c'est justement à cause d'un cambriolage qui s'est passé à côté de chez moi que j'ai décidé de créer ça il y a une dizaine d'années. Enfin, c'était pratiquement au début de Voisins Vigilants. Et moi, j'ai eu des soucis, évidemment, avec la mairie, puisque c'était le début, et ils n'étaient pas vraiment d'accord avec ça. Donc, j'ai pas été prise au sérieux. Mais mes voisins, quand même, eux, l'ont été. Ils étaient vraiment... ça nous a permis de nous souder, de nous rencontrer, de faire plus ample connaissance. Évidemment, hein, comme partout, il y a de la délation, hein, faut pas rêver. C'est pas les voisins vigilants spécialement qui
créent ça, ouais.
Oui, qui feraient ça. C'est il y en a partout, il y en a partout. Nous, on avait une voisine qui ne faisait pas partie de voisins vigilants. Elle a réussi à se mettre quand même deux rues de notre quartier à dos.
Oui, j'entends. Mais Sandrine, qu'est-ce que vous avez signalé, par exemple, quand vous étiez voisine vigilante?
Alors, moi, les gens passaient par moi, puisque j'étais la référente.
D'accord.
Et donc, sur la communauté, ils nous disaient ce qui se passait, ils nous prévenaient de leur absence. Parce que forcément, des fois, il y avait plusieurs voisins qui, forcément, ne s'entendaient pas ensemble. Donc, ils prévenaient quand même que sur l'application qu'ils s'en allaient.
D'accord.
Pour qu'on fasse attention, quand même, à la maison. On nous prévenait aussi des déchets sauvages.
D'accord. Et ça a été ça, c'est très bien.
Voilà, c'est ça. Mais c'était surtout de la convivialité.
D'accord.
Parce que c'était aussi événementiel.
Faisiez des apéros voisins vigilants, quoi.
Exactement.
D'accord.
Non, mais c'est vrai.
C'est pas l'idée, je veux dire, de l'appli de départ, mais ça peut,
peut finir comme ça. Ça permet de faire une communauté. Parce que les voisins, et puis après le Covid, évidemment, on est devenu très individualiste, je trouve.
Oui, bien
pour
sûr.
Pour ma part. Voilà, on est moins attentifs les uns aux autres.
Et ça,
surtout
ça permet.
Quand il y a des personnes âgées. Et tout à fait. Pour les personnes âgées.
Vous avez raison. Et ça permet aussi de veiller les uns sur les autres sans avoir besoin de délation. Merci beaucoup, en tout cas, Sandrine, d'avoir été avec nous. On va remercier également Frédéric Delanouvelle, directeur général adjoint de Voisins Vigilants et Solidaires. Et a priori, le résultat de notre sondage, eh bien, il va faire plaisir à Frédéric.
Oui, les Voisins Vigilants, est-ce que c'est une bonne idée? Le Waze des Voisins Vigilants, c'est une bonne idée pour 75% de ceux qui sont prononcés sur nos réseaux sociaux.
Ouais, donc c'est aussi une très large majorité. Désolé, Pierre Rondeau.
Juliette.
Mais oui, mais.
C'est drôle de duo aujourd'hui.
Mais je n'arrive pas à me dire que Juliette est contre. Je ne comprends pas ce qui se passe dans cette émission.
Je suis pas contre, je suis inquiète par la tournure des événements.
C'est pas ce à quoi je m'attendais.
RMC, midi 15h.
Estelle Midi. Toute la semaine, dès 15h sur RMC. Retrouvez l'équipe la plus déjantée de la radio avec Éric Dimeco, l'ancien fou.
Oui, voilà. Alors il y a Dimeco, il y a Charvet, il y a Stephen, il y a Bartoli, il y a Higuain, il y a Pierrot. Venez vous marrer, parler de sport avec nous dans le Super Moscato Show. Voilà, ça c'est efficace et présent de la graine.
Mais Vincent,
il n'y a pas de mais.
Vincent.
Alors à tout à l'heure.
Vincent, t'as oublié l'heure.
Je vais pas faire tout ton travail non plus, feignasse.
Le Super Moscato Show, du lundi au vendredi, 15h-18h, sur RMC.
Ce week-end, à l'Hippodrome d'Auteuil, c'est le Grand Steeple Chase de Paris avec RMC. Assistez à la plus spectaculaire des courses d'obstacles de l'année. Prenez vite vos places sur francegallo-live.com. Le Grand Steeple Chase de Paris, ce week-end, avec RMC. À chaque obstacle, c'est votre cœur qui bondira.
RMC.fr et appli RMC.
RMC en direct, partout, tout le temps. RMC.
Et vous, quel est votre lien avec RMC?
Le 32-16, pour moi, c'est la liberté, quoi. T'entends un mec qui dit un truc à la radio, t'appelles, et cinq minutes après, tu passes à l'antenne et tu le contres, tu argumentes, tu t'interviens.
De 5h à minuit, le standard RMC n'attend que vous au 3216.
RMC, bien plus qu'une radio.
RMC.
Les meilleurs moments de la journée, toutes les nuits sur RMC. Rediff. RMC, Estelle Midi.
Le zapping RMC.
Et on va les commenter, ces extraits, avec Rémi Barré, Pierre Rondeau, Juliette Briens et Fred Hermel. On va commencer tout de suite avec un extrait des Grandes Gueules ce matin sur RMC. Sommes-nous trop durs avec nos politiques? Dans un entretien au journal Le Figaro, l'ancien chef d'état-major des armées, le général Lecointre, a déclaré qu'être un homme politique était courageux mais sans grandeur d'établissement, et ajoute que le président et le premier ministre passent leur temps à ne penser qu'au bien commun tout en étant mal payés et injuriés en permanence. Mais pas de quoi émouvoir l'enseignante des GG, Barbara Lefebvre.
C'est des gens, ils sont pas là par hasard. Ils sont là parce que ça leur convient, ça leur plaît, ça les intéresse. Sure. L'intérêt général, au vu, au final, puisque nous avons un certain recul, que ce soit M. Sarkozy, M. Hollande, qui eux en ont carrément fait carrière, mais même M. Macron, qui est un jeune politicien, on est en train de se le supporter depuis 7 ans, donc on a déjà un petit bilan. L'intérêt général, je ne vois pas bien, vu l'état de la situation. Donc, si vous voulez, je ne vais pas verser une larmichette, parce que ces messieurs seraient fatigués. Oh bah dis donc, il y a d'autres gens qui sont fatigués, qui ont des travaux fatigants, excuse-moi, mais je crois qu'une aide-soignante qui habite à Garges-lès-Gonesse et qui se lève tous les matins pour aller bosser à l'hôpital Saint-Louis, je crois qu'elle est fatiguée aussi, et surtout qu'elle gagne moins que monsieur Attal et monsieur Macron.
Est-ce qu'on doit plaindre les hommes politiques, Juliette Briens?
Non, excusez-moi, je m'apprête pas à pleurer, quoi. Enfin,
non, mais ça nous aurait étonné en même temps.
Non, mais je m'apprête pas à pleurer. Être politique, c'est une carrière, et la majorité de ces gens sont extrêmement carriéristes. Il faut arrêter avec l'intérêt général et la grandeur de la France. Ça, c'est fini depuis Charles de Gaulle, hein. Donc, à un moment donné, ils sont là parce qu'ils sortent d'une école qui les a préparés à comment faire de la politique, comment jouer son coup, comment montrer des stratégies. Parfois, il y a de la provocation. Parfois, c'est eux qui provoquent leur propre polémique pour faire diversion sur un autre sujet. Donc, c'est normal qu'ils soient responsables de leur politique ou leur manque de volonté politique, et qu'ils reçoivent des critiques quand ils sont au pouvoir et qu'ils ne font rien depuis 7 ans. C'est tout à fait normal, et on va pas pleurer, voilà. Donc oui, c'est un métier difficile, à la hauteur de ce que ça rapporte, à la hauteur de la responsabilité qu'on a, c'est bien sûr un métier difficile. Mais effectivement, il y a des métiers qui sont très difficiles pour d'autres raisons. Oui. Personne ne les empêche de le faire, ils peuvent démissionner et faire autre chose.
Oui, mais justement, moi je me dis quand même, pardon, mais il y a des gens qui sont ministres qui gagnaient beaucoup mieux leur carrière lorsqu'ils étaient dans la société civile, et qui quand même se mettent au service du bien commun.
Enfin, moi, j'espérais qu'il y en a, quand même. Bien sûr, mais j'espère, et je suis d'ailleurs pour que les hommes, les responsables politiques soient bien payés, les ministres, les députés, etc. C'est ce qu'il y a de mieux pour empêcher la corruption, et c'est mérité, parce qu'on prend des risques. En revanche, peut-être ce que je peux dire, il y a une dérive en ce moment, qui est arrivé ces dernières années, qui moi m'énerve, c'est la criminalisation des décisions politiques. C'est-à-dire quand on fait des perquisitions chez la ministre qui aurait mal géré le conflit du Covid, etc. Sur leurs décisions politiques. Agnès Buzyn. Je suis désolée.
C'est avéré,
si on fait ça. Si on fait ça, là, on va tuer l'intérêt commun, justement. Ouais, parce qu'ils vont avoir peur de prendre des décisions politiques pour l'intérêt de la France, parce qu'ils vont avoir peur, justement, après, de la criminalisation
On ne fait pas des perquisitions chez n'importe qui non plus.
Alors, moi, je suis un fan absolu de Barbara Lefebvre, mais elle a tort. Moi, je suis depuis mes tout débuts, comme jeune journaliste à Nord-Éclair, à Roubaix-Tourcoing, j'ai suivi les députés. C'est un vrai, c'est pas un boulot, c'est une vocation. C'est-à-dire que les députés travaillent tout le temps. Moi, je connais beaucoup de députés.
Pour ceux qui veulent.
Ouais, attends, mais la majorité travaille.
Non, mais il y en a qui travaillent énormément, et il y en a qui
travaillent. Ils sont pas dans l'hémicycle, mais ils sont pas dans l'hémicycle. Pourquoi? Parce qu'ils sont en circonscription. Oui, parce que s'ils sont pas inauguration du village fleuri,
ils sont pas élus après. Etc. Bah voilà.
Mais parce que c'est du temps, tout le temps, c'est du 100% de temps.
Enfin, ils le savaient, ils découvrent pas ça.
Bien sûr, bien sûr. Mais le problème, c'est que c'est critique. Vous savez ce que ça provoque, ce que provoquent les critiques tout le temps sur les politiques? Bah, c'est qu'ils sont de plus en plus mauvais parce que les bons, ils viennent pas. Parce
qu'on critique leurs décisions et leurs avis politiques.
Les bons sont dans le privé. On voit par exemple le niveau de l'Assemblée nationale, notamment avec les Insoumis, comment ça a pu baisser. Parce que beaucoup de gens se disent, je vais gagner moins d'argent, on va me chercher des poux dans la tête, même si je suis chauve, mes enfants vont être insultés. Vous comprenez? Il y a tout ça. Donc aujourd'hui, la baisse du niveau politique est due au bashing qu'il y a eu tout le temps sur les politiques.
Oui, alors juste, je te retournerai l'un de tes arguments souvent quand on parle de la SNCF ou de la RATP. Tu dis, si on n'est pas content de son boulot, on démissionne. Bon, je suis désolée. Il y a un moment, on peut dire pareil des députés. Tu vois, alors c'est pas très bien.
Non, mais il y en a un certain nombre qui renoncent. Hein.
Beaucoup.
Des maires, mais pas des députés. Non,
mais les maires, mais pourquoi les maires alors
ben voilà. Mais ils sont mal payés. Non, attends, quand les députés sont bien payés, ça va.
Ville, non, ils sont baissés. T'as une certaine réputation, t'as un certain pouvoir, t'as un certain salaire. Je parle des maires d'une certaine taille, etc. Pourquoi plus personne ne veut le faire?
Mais les maires, c'est très mal payé. Les députés, c'est pas mal payé. T'es à 7006, ça va.
Il y a des gens qui viennent du privé qui gagneraient beaucoup plus dans le privé qu'ils ne le gagnent
en privé. Mais personne ne les oblige à se présenter à la députation.
Il y a un certain nombre de politiques aujourd'hui, en tout cas des politiques, qui ont renoncé à leur carrière.
Les maires,
les maires, je suis d'accord, mais ils sont tellement mal payés.
Il y a aussi des maires, c'est vrai, mais qui sont dans le privé.
Ce qui est intéressant, et Juliette en parlait justement de la rémunération des politiques, j'irais de l'élite, en tout cas les députés ou les ministres. Pas les maires, et les maires. Rémi, tu as totalement raison, ils sont mal payés, peu considérés, mais en tout cas, parmi le sommet de la hiérarchie politique, les membres du gouvernement et les députés, la question de la rémunération se pose. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir si on vit de la politique ou on vit pour la politique. Vivre de la politique, c'est suffisamment bien payé pour accepter de faire ce travail. Et est-ce qu'à 7000 euros, si je peux avoir le triple dans le privé, j'ai un intérêt à y aller, avec ma compétence, ma qualification, mon expérience. Et ce qu'on constate, et encore plus pour les membres du gouvernement, c'est qu'ils ne vivent pas de la politique, ils vivent pour la politique. Pourquoi? Parce qu'ils ont le capital derrière. Et quand on regarde le capital déclaré des membres du gouvernement, ils sont largement au-dessus de la moyenne nationale. Oui. Gabriel Attal, il a 1,5 million.
Mais souvent, ils ont fait des études et tu le sais très bien, ils sont surdiplômés.
Gabriel Attal n'a jamais travaillé de sa vie. Gabriel Attal, il a fait Sciences Po, il n'a pas terminé sa cinquième année. Il a été pistonné pour intégrer un membre d'un cabinet sous François Hollande. Il a ensuite été macroniste, élu député, puis ministre.
Gabriel Attal, il a simplement... C'est un boulot, être député, c'est un boulot, Pierre, je ne peux pas te laisser dire ça.
Mon propos est de dire que certains membres du gouvernement peuvent se permettre de faire ce travail, peut-être pas très bien payé, à la hauteur de leur qualification et de leur expérience, parce qu'ils ont le capital derrière. Gabriel Attal, il a 1,5 million hérité. Il a jamais travaillé de sa vie.
Stop, tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'un député n'a jamais travaillé de sa vie.
J'ai jamais dit ça. J'ai dit Gabriel Attal. J'ai pas dit un député, j'ai dit Gabriel Attal.
Non, c'est pas ce que je te dis, mais tu peux pas dire que être conseiller politique ou être porte-parole du gouvernement, c'est pas un boulot. Être ministre, c'est un boulot. Tu peux pas dire ce ministre n'a jamais travaillé de sa vie. Ça, c'est pas possible.
Dire travailler
c'est
dans la
pas
vraie
possible.
Vie, quoi.
Ah,
oui,
non, mais
oui,
être
c'est
ministre,
ce que je veux dire.
Non, mais être ministre, c'est un travail.
D'accord.
Tu peux pas considérer que c'est pas un travail. Ce que tu dis.
C'est très difficile, en plus. Mais
c'est... encore une fois, je.
Mais non, mais tu peux pas dire ça. Il est pas militant, Gabriel Attal. Il est ministre.
C'est un travail difficile. Je dis simplement que sur la question de la rémunération qui se pose, sont-ils suffisamment bien payés? S'ils ne le sont pas et qu'ils peuvent avoir le triple ou le quadruple dans le privé, et Fred l'a dit, peut-être qu'il y a des gens incompétents qui deviendraient députés parce qu'eux n'ont pas les moyens d'aller ailleurs, la question se pose effectivement de la rémunération. Et si ces gens compétents acceptent d'aller dans le privé, dans la députation, c'est qu'aussi ils ont de l'argent de côté.
Oui, mais réjouissons-nous qu'il y ait des gens qui veulent encore s'occuper de notre pays.
Si on dit demain, on met des gens très compétents, hautement qualifiés à 20 000 euros par mois, personnellement, ça ne me choque pas.
Non mais moi non plus, moi ça me choque pas que les responsables politiques soient très bien payés. En revanche, je suis un peu plus choquée par tous les frais, inhérents à leur fonction. Ça me gêne un petit peu plus.
Certains conseillers qui ne sont pas au devant de la scène et qui gagnent plus que les ministres.
Je pourrais t'en citer un certain nombre de personnes, notamment quand j'étais dans un parti politique autrefois.
Oui, le parti socialiste.
Des gens qui étaient très bien payés pour pas grand chose.
On est d'accord.
Oui. Voilà.
Apolline Matin, ce matin sur RMC. Devenir sapeur-pompier fait-il encore rêver? Les hommes et les femmes en charge de nous secourir n'en peuvent plus de la dégradation de leurs conditions de travail et vont donc manifester en masse aujourd'hui à Paris. Explosion des interventions, agressions régulières, mauvaise rémunération. Les griefs sont nombreux pour Jules. Il est sapeur-pompier depuis 15 ans et il témoignait ce matin sur RMC.
Des missions qui n'ont plus grand chose à voir avec ce qu'on faisait il y a quelques années, on va dire. Du malaise à domicile, la chute de trottinettes dans la rue, bagarre, agression, ivresse voie publique. De plus en plus d'interventions et il y a de moins en moins de pompiers, donc en fait c'est fatigant.
Et c'est terrible hein, ce témoignage, parce que c'est vrai qu'avant il y avait tous les enfants, ils voulaient devenir pompiers, et là on a l'impression que...
Mais en fait, c'est ça pour tous ces genres de métiers. Vous vous rendez compte, c'est qu'en fait, ce qui est choquant, c'est qu'aujourd'hui, avec la destruction de nos services publics, c'est tous les métiers qui, avant, faisaient rêver les gosses, policiers, profs,
infirmières,
sapeurs-pompiers, enfin infirmières, tout ça qui faisait rêver. C'était vraiment des métiers de vocation, quoi. Avant tout, le monde rêvait d'avoir une vocation. Eh bien, tous ces métiers maintenant sont délaissés parce qu'on a détruit nos services publics, parce qu'ils s'en prennent plein la gueule, ils sont agressés, ils sont pas payés, et donc plus personne ne veut faire ces métiers. C'est beaucoup plus facile d'aller dans le tertiaire, d'aller dans le privé, d'aller se planquer derrière un bureau. Franchement, ça donne plus envie aujourd'hui. Et ça, c'est triste. C'est une tristesse.
Alors,
Frédéric,
pas bien payé, ce n'est pas vrai. C'est pas, les pompiers sont correctement payés. Par contre, les conditions de travail sont affreuses.
Bah, pas à la hauteur des conditions
de travail. Vous rendez compte des risques. Donc, de toute façon, on n'est jamais assez payé pour être pompier.
Mais je ne parle pas uniquement des risques liés, les risques inhérents à sauver des gens, à entrer dans des incendies, etc. Ouais. Et les mecs qui sont caillassés. Ils vivent tous les jours. Moi, j'ai un cousin qui est pompier dans le Nord. Voilà, ils vont dans certains quartiers où il y a des guet-apens tout le temps, où ils risquent leur vie parce qu'ils sont agressés, où il y a des feux qui sont mis pour attaquer, pour faire venir les pompiers et les attaquer à coups de batte de baseball.
Ça m'hallucine.
On n'en parle pas tous les jours, mais ça se passe tous les jours.
Encore une fois, j'ai pas justifié, mais je comprends les agressions contre les policiers. Je dis encore une fois, loin de là,
mais je ne peux même pas t'entendre dire ça.
Non.
On voit ce qu'il veut dire.
Ce que je veux dire, c'est que oui, je suis contre le gendarme, contre, vous savez,
le gendarme contre voleur. On ne peut pas justifier une agression quelle qu'elle soit.
On est entièrement d'accord, mais là, les pompiers. Il y a un feu.
Je sais.
Je vais te sauver la vie. Non, je t'agresse. Ouais. Ils reçoivent des boules de pétanque.
Les médecins libéraux.
Des boules de pétanque aussi.
Voilà, c'est juste, je n'arrive pas à comprendre.
Parce que c'est toute figure
de
qui représente
publique.
L'État.
Oui.
Voilà, toute figure qui représente l'État est aujourd'hui.
T'as l'uniforme.
Exactement. Allez, on va terminer avec un petit peu de sourire. Êtes-vous un adepte de la marche à reculons? Ils en ont parlé ce matin dans Apolline Matin. Ça fait des années que les médecins font la promotion de cette pratique qui serait très bonne pour la santé, notamment pour les genoux ou encore les lombaires. Et aujourd'hui, cette marche à l'envers cartonne sur les réseaux sociaux. C'est ce que nous révélait ce matin